Chapitre 18. Pouvoir d'achat et structure de consommation des ménages. Synthèse audio. 1. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat désigne ce que l'on peut consommer en biens et services avec son revenu. Pour calculer l'évolution du pouvoir d'achat, il faut comparer l'évolution des prix et des revenus. Si les revenus augmentent plus vite que les prix, le pouvoir d'achat augmente. Au contraire, si les revenus augmentent moins vite que les prix, le pouvoir d'achat diminue. L'indice des prix à la consommation, appelé IPC, est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Il est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et services qui est actualisé chaque année. L'indice des prix, hors tabac, sert à indexer de nombreux contrats privés, des pensions alimentaires, des rentes viagères et aussi à indexer le SMIC. Pour constituer son panier de biens et de services, l'INSEE utilise aujourd'hui les données de caisse recueillies par la grande distribution lorsque le consommateur passe en caisse. 2. L'évolution à long terme du pouvoir d'achat. D'une manière générale, le pouvoir d'achat des Français a toujours progressé. La hausse du pouvoir d'achat se situait au-dessus des 4% jusque dans les années 80. Elle s'est ensuite fortement ralentie pour atteindre ces dernières années une hausse entre 0 et 2%. Ces augmentations régulières et sur une longue période permettent donc de constater une amélioration du niveau de vie des Français. Il existe un décalage entre le niveau du pouvoir d'achat mesuré par l'INSEE et celui ressenti par les Français. En effet, le chiffre publié par l'INSEE est une moyenne qui ne reflète pas les situations personnelles de chaque ménage. C'est pourquoi l'INSEE utilise une autre méthode de calcul du pouvoir d'achat par unité de consommation pour mieux refléter les situations individuelles. Les dépenses préengagées correspondent à l'ensemble des dépenses des ménages réalisées dans le cadre d'un contrat difficilement renégociable à court terme. Lorsque la part des dépenses préengagées est élevée, il devient plus difficile pour les ménages modestes de faire face aux autres dépenses de la vie courante comme pour l'alimentation, le transport, l'habillement ou la santé. Cette augmentation des dépenses préengagées, comme sur le logement par exemple, pèse plus sur un faible revenu que sur un revenu plus élevé. Cela augmente donc les inégalités de pouvoir d'achat entre les ménages modestes et les plus aisés. 3. La structure de la consommation des ménages. On constate une transformation de la structure de consommation des ménages dans le temps. La part du logement ne cesse de croître depuis les années 60 et représente aujourd'hui un tiers du budget des ménages. On peut observer parallèlement une diminution très nette de la part de l'alimentation dans la structure de consommation des ménages, qui a été divisée par 2 en 60 ans. Pour analyser la consommation des ménages, on parle de structure de la consommation qui désigne la répartition des dépenses en fonction de postes budgétaires. Un poste budgétaire est un ensemble de produits réunis dans une même catégorie, car ils remplissent la même fonction. Les principaux postes budgétaires sont le logement, l'habillement, la santé, l'alimentation, l'éducation, les loisirs et la culture, les transports. Ils peuvent se mesurer en volume ou en valeur. Un coefficient budgétaire représente la part d'un poste budgétaire sur l'ensemble des dépenses effectuées par un ménage. Un prix relatif désigne le prix d'un bien par rapport au prix d'un autre. Les services prennent une plus grande part dans la structure de la consommation. Cela s'explique par le fait que leur prix relatif par rapport aux produits industriels a fortement augmenté avec une production de services à plus forte valeur ajoutée.